avons de lire et de méditer ensemble sur un passage de l'évangile de Marc, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es celui qui a tout accompli pour nous. Merci parce que en toi, par toi, nous avons libre accès auprès du Père. Et tu nous fais co-héritiers du royaume éternel. Merci Père pour cette prodigieuse espérance, cette promesse accomplie. Et merci pour la croix qui nous permet, Seigneur, d'y avoir accès. Amen. J'aimerais vous lire l'évangile du jour qui est très court, qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 1. À partir du verset 14 jusqu'au verset 15, deux versets. Cela se passe juste après le baptême de Jésus par Jean, et après que Jésus, comme nous le dit l'évangile de Marc de manière très 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 brève, mais comme nous le développent d'autres évangiles, il a été conduit au désert par l'Esprit Saint, il a subi 40 jours, d'épreuves et de tentations, et puis il est venu alors commencer son ministère visible et terrestre pendant 3 ans. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et une autre version dit « prêchant l'évangile de Dieu ». Le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Il est dit aussi dans une autre version « le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Jésus commence son ministère ainsi. Il a la conviction, il a l'autorité pour dire « le temps est accompli » et il prêche l'évangile de Dieu. Le mot « évangile » en français courant, c'est devenu le synonyme de quoi ? D'un livre. Ce n'est pas ça. Il faut prendre l'évangile dans son sens littéral. Évangile, ça veut dire « bonne nouvelle ». Quelle bonne nouvelle ! Et pourquoi Jésus la prêche en commençant en disant « le temps est accompli ». J'aimerais avec vous méditer là-dessus. Qui est celui qui annonce cette bonne nouvelle et pourquoi il le sait ? Quelle est cette bonne nouvelle ? Et qu'est-ce qu'elle conditionne comme attitude pour nous quand nous l'entendons ? Alors c'est évident, frères et sœurs, que ce texte de Marc, Jésus l'a dit, l'a vécu, il y a près de 2000 ans. Nous savons très bien qu'il l'a vécu avant la croix. En quoi nous rejoint-il encore aujourd'hui ? C'est ce que j'aimerais vous partager. Et je me suis d'abord surpris, pendant que je préparais ça, je me suis vu, alors j'espère que ça ne va pas trop vous faire sourire, mais je me suis vu en train de rentrer dans une de mes classes et dire ça à mes élèves. Les temps sont accomplis. C'est le temps de prêcher l'évangile de Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et j'ai essayé d'imaginer la réaction d'une de mes classes de terminale S. Et je me suis dit qu'il y aurait 3 réactions possibles. Parce que j'ai finalement 3 types d'élèves dans mes classes. Je pense qu'il y aurait des élèves de culture complètement athée qui m'auraient dit « Monsieur Vanout, il a trop expérimenté un TP sur les drogues hallucinogènes, ça ne va pas. » Il faut qu'on aille voir l'administration, il n'est pas en état enseigné. J'ai des élèves maghrébins, musulmans, qui m'auraient dit « Monsieur Vanout, vous faites un délire mystique et puis vous vous basez sur des textes falsifiés. » J'aurais peut-être des élèves chrétiens qui auraient dit « Ah, il fait référence à quelque chose que je connais, mais franchement, qui il est pour le dire ?» Mais quand Jésus a lancé, c'était à peu près ça ce qui s'est passé lorsqu'il commençait à prêcher. En gros, la grande question, mais qui est-il pour dire cela ? Qui est-il pour dire cela ? Alors, dans un premier temps, ce serait intéressant justement de voir qui est celui qui annonce cette bonne nouvelle. Et j'ai lu pas mal de choses ces derniers temps pour voir un peu, alors, je vais vraiment vous faire un résumé extrêmement condensé. pour voir un peu où en sont les historiens qui travaillent sur justement la période des évangiles, la période de Jésus, sur ce qui était conçu, pensé par le peuple juif à l'époque de qui serait le Messie. Et au plus on creuse, au plus on voit que c'est extrêmement diversifié. On a souvent l'habitude de dire que certains attendaient un Messie royal, vous savez, d'autres un Messie sacerdotal. Et en fin de compte, on s'aperçoit, en travaillant les textes qu'on découvre de cette époque, qu'on retravaille de cette époque, qu'il y avait vraiment plusieurs courants, mais c'était sûr que l'espérance du peuple juif, c'était celle d'un libérateur qui viendrait pleinement accomplir la promesse faite dans l'alliance à Abraham. Et il y a, vous savez que dans la tradition juive, il y a la Torah écrite et il y a la Torah orale. La Torah écrite, c'est le livre que l'on a, c'est le livre, les Écritures, tout ce qui concerne finalement le Premier Testament. Et la Torah orale, c'est la Torah de la tradition d'interprétation qui est mise dans le Talmud. Il y a deux Talmuds, celui de Babylone, celui de Jérusalem. Celui de Babylone a été écrit en exil par les Juifs qui étaient hors d'Israël, en Perse notamment, et donc en Babylonie. Il y a le Talmud donc de Jérusalem qui a été écrit par les Juifs qui restaient en Israël, qui n'avaient pas été en exil, et qui est notamment regroupé autour d'une école qui n'était pas loin de Nazareth. Et ce qui est étonnant, c'est que le Talmud de Jérusalem, de ceux qui étaient restés, parle du Messie fils de David, bah oui, celui qui va revenir régner en Israël pour instaurer le royaume. Et le Talmud de Babylone parle du Messie selon Joseph qui devra mourir. Qui devra mourir. Autrement dit, si vous voulez, c'est comme si toutes les pièces du puzzle étaient déjà en place pour comprendre qui est Jésus. Mais on avait l'impression que tous les courants n'avaient qu'une pièce du puzzle et que tout était un peu dispersé et qu'il fallait tout rassembler. Et enfin, il y a une tradition qui est tout à fait maintenant avérée et qui était enseignée par tous les rabbins, c'était que celui qui viendrait établir le royaume éternel de Dieu, ce serait le Fils de l'homme à qui Dieu remettrait tous les pouvoirs. C'est ça, c'est dans le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, il est dit, Daniel a une vision, j'aime bien le relire parce que ça me parle moi aussi par rapport à la perspective réelle de ce que Jésus est venu annoncer. Voici ce que Daniel voit dans le chapitre 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Faut comprendre que pour beaucoup de Juifs, l'espérance qu'ils avaient, c'était que ce royaume qui s'installerait ne serait pas que pour Israël, toutes les nations viendraient à Jérusalem pour adorer le vrai avec une royauté éternelle. Alors, Jésus, finalement, il annonce que les temps sont accomplis et que ça y est, le temps est là. Il condense toutes ces réalités. Il est le Messie royal. Pourquoi il est Messie royal? Parce qu'il est descendant de David. Pourquoi il est aussi le Messie, en fin de compte, selon Joseph? Parce qu'il va être vendu en esclave aux païens, qui vont le juger, qui vont le condamner, et il va mourir. Et pourquoi il est le Fils de l'homme? Parce que tout pouvoir va lui être donné après résurrection. Il règne maintenant à la droite de Dieu, tel que Daniel l'a vu. Mais surtout, et c'est la dimension sur laquelle, tout à l'heure, Hubert nous le rappelait, il y aura vraiment une pierre d'achoppement, Jésus, Fils de l'homme, ça choquait aucun juif. Jésus, Fils de David, ça choquait aucun juif, a priori. C'était crédible selon la tradition. Jésus, fils, en fin de compte, de Joseph ou d'Éphraïm et qui allait mourir, une partie du peuple d'Israël pouvait l'entendre. Mais Jésus, fils du Dieu vivant, c'était plus difficile. Pourquoi plus difficile? Parce qu'il fallait alors accepter que ce Messie qui serait mis à mort, ce serait Dieu qui serait mis à mort. Et c'est là-dessus que c'était le plus difficile. Et pourtant, c'est ce qui va s'accomplir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, Jésus a l'autorité pour dire cela. Lui seul a l'autorité pour dire, ça y est, c'est le temps, c'est le jour de Dieu. Ça y est, la bonne nouvelle peut être annoncée. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que le jour de Dieu arrive. Vous allez voir aujourd'hui, maintenant, dans votre génération, s'inaugurer le temps où le Fils de l'homme recevra le règne et où enfin la promesse faite à Abraham s'accomplira. Et c'est cela qui m'a le plus, peut-être moi, non pas surpris, mais interpellé dans ce que j'ai travaillé, c'est que Jésus, comme Paul, comme celui qui écrit l'Épître aux Hébreux, font référence à Abraham pour justifier finalement de qui est Jésus et de ce qu'il vient faire. Plus qu'à tout texte de référence messianique tel que je viens de vous le dire. Comment voit-on cela? En fin de compte, je reviens au texte maintenant. Vous voyez que dans le texte, il est dit que Jésus dit que le temps est accompli, que le royaume s'est approché, et que du coup, il va falloir changer de comportement. Alors, retravaillons un tout petit peu. Si vous le voulez bien, ce n'est pas une étude biblique, ce sera trop long à faire, mais j'aimerais juste travailler un tout petit peu plus cela. Qu'est-ce que ce temps qui est accompli que Jésus annonce? En fin de compte, c'est le temps où je viens de dire s'accomplit la promesse de Dieu. Mais quelle est cette promesse? Et je me suis aperçu que pour moi, le verset qui m'en parlait le mieux, c'est dans l'évangile de Jean. Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, Jésus est en but aux contradictions, enfin, en contradiction avec une certaine partie du peuple juif, les pharisiens, notamment du temple, pas les pharisiens du peuple, ceux du temple, ceux qui ont le pouvoir. Et dans cette dispute, au chapitre 8, voilà ce qui nous est rapporté, je voudrais vous le relire simplement. Voilà ce que disent les pharisiens du temple. « Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu. » Et il s'est réjoui. Jésus se réfère à Abraham qui aurait vu le jour de Dieu. Si vous prenez l'Épître aux Hébreux, Abraham est cite référence dans Hébreux 11, comme ce modèle de la foi par qui passe toute la tradition de l'espérance et de la foi. Et si vous lisez Paul dans l'Épître aux Galates, donc Paul le dit aussi dans les Galates, il fait aussi référence à Abraham, en fin de compte, dans son explication de qui est Jésus et de quelle malédiction il nous a retiré. Il dit explicitement, Galates 3, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, et ceci afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Pour Paul, Jésus est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Quel est ce jour qu'Abraham a vu? Quel est cet accomplissement de la promesse? Et là, je vais faire référence à une étude biblique que j'ai remarquable par un professeur de théologie de la faculté d'Aix-en-Provence, près de Marseille. Et c'est un enseignement qui me plaît beaucoup, qui me touche beaucoup. Il dit finalement, quand on travaille la Genèse, on voit que Abraham a vu trois fois ce qu'allait être le jour de Dieu, qui accomplirait la promesse que Dieu lui a faite. Genèse 15, Genèse 22 et Genèse 18. Genèse 15, c'est un des textes, pour moi, les plus profonds de la Bible. C'est le texte où Dieu promet à Abraham qu'il aura une descendance et qu'en lui seront bénies toutes les familles de la terre et toutes les nations. Vous connaissez ce texte. Et comment Dieu manifeste à Abraham que son alliance, il l'a fait réellement avec lui. Je me souviens d'en avoir parlé à Hubert il y a une paire d'années de ce texte. Vous savez ce qui se passe? Dieu demande à Abraham de couper des animaux en morceaux. C'était la tradition à l'époque de faire cela quand deux personnes de deux clans différents contractaient une alliance. On coupe en morceaux les animaux et on passe l'un après l'autre entre les animaux. Ce qui signifie, si tu trahis l'alliance, tu subiras ce que subissent ces animaux, on te coupera en deux. Vous savez ce qui se passe? Abraham, finalement, rentre dans une espèce de somnolence et c'est Dieu seul qui passe entre les animaux sous la forme d'un feu ardent. Et Abraham, à son réveil, il voit les traces de ce qui s'est passé, il voit les animaux coupés en deux et il comprend. Première vision du jour de Dieu. Première vision de ce que sera le jour de Dieu. C'est Dieu qui prend en charge toutes les ruptures d'alliance. C'est Dieu qui prendra en charge toutes les ruptures d'alliance. Ce jour qui est annoncé, c'est le jour de la grâce. Dès Genèse, ne cherchez pas ailleurs. Dès Genèse. Genèse 18, la référence, interrogation orale, texte magnifique, l'icône de Roublev, le chêne de Mambrai. Qu'est-ce qui se passe là? Abraham reçoit la visite de trois personnes qu'il appelle le Seigneur. Trois et un seul nom. Vision prophétique du Dieu saint qu'il appelle le Seigneur. Mais il va s'empresser de l'accueillir, il va s'empresser de les servir. Donc il voit trois hommes, il voit une réalité d'incarnation. Il voit un Seigneur qui se fait homme pour le rejoindre et lui ouvrir son cœur. « Vais-je taire à Abraham ce que je vais faire ?» Jésus, déjà, Abraham voit ce que sera l'incarnation. Ce Dieu qui se fait homme pour nous rejoindre et nous ouvrir son cœur. Et qui attend la coopération de l'homme à son projet. Abraham, j'en suis convaincu, tourne tout ça dans son cœur. Et le troisième jour, la troisième fois, il voit ce jour où il perçoit ce que sera le jour de l'accomplissement de la promesse. Un texte étonnant, Genèse 22, que nos frères juifs appellent la ligature d'Isaac, que nous appelons le sacrifice d'Isaac. Qu'est-ce qui se passe là? Ça se passe où? Sur quelle montagne? Le mont qui est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'esplanade du temple. C'est là où était construit le temple de Salomon. C'est là où était construit le temple d'Hérode. C'est juste à côté que Jésus sera sacrifié. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fin de compte, il y a un sacrifice qui n'est pas achevé. Abraham est prêt à sacrifier son fils par fidélité au Dieu de l'Alliance. Et Abraham va alors vivre une chose étonnante. Il va vivre une substitution. Dieu va pourvoir en donnant lui-même la bête du sacrifice pour que son fils à lui ne soit pas sacrifié. Et Abraham va alors comprendre que Dieu, jusqu'au bout, fera un sacrifice de substitution pour pleinement accomplir sa fidélité envers nous. Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Tout est déjà annoncé dans la Genèse. L'homme est incapable. Mon frère, ma sœur, Étienne, tu es incapable de tenir l'alliance. Et je vous annonce une bonne nouvelle. J'en serai toujours incapable. Complètement. Jusqu'au jour de ma mort, je serai un pécheur. Et je le sais. 56 ans d'expérience. Et je le serai encore demain. Mais quelqu'un s'est substitué à moi pour payer à ma place mes incapacités du respect de l'alliance, jusqu'au bout. Alors, Jésus vient annoncer ça, pourquoi? Parce qu'il est celui qui accomplit cela. Il est la victime expiatoire qui va nous racheter de toutes nos incapacités d'alliance, de tous nos manques de respect au projet de Dieu pour nous et pour les autres. Et il va mourir sur la croix, à côté du mont Moria, où il sera exposé à tous, comme le roi d'Israël, le Messie royal, qui meurt comme le Messie de Joseph, et à qui tout pouvoir sera donné après la résurrection, comme dans la prophétie de Daniel. Il est le seul qui peut dire cela, parce qu'il l'accomplira. Et Abraham se réjouit, parce qu'il avait vu ce jour par avance. Alors, frères et sœurs, s'il fallait nous en convaincre, première chose, j'espère que vous savez que nos écritures n'ont pas été falsifiées. J'espère que vous le savez. J'espère que vous en êtes convaincus. Ce qui est rassurant, c'est que la science vient aussi nous aider pour montrer que ce n'est pas falsifié. Parce que le texte antique dont nous avons le plus de preuves de l'authenticité, c'est la Bible. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? Parce que si je m'arrête là, j'ai peut-être fait en un quart d'heure un bon petit cours, une bonne petite exégèse biblique. C'est pas mal, c'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est ce que dit Jésus à la fin. Repentez-vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est l'évangile de Dieu. Il a accompli sa promesse. Toutes les nations seront bénies. Toutes les familles seront bénies. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, et toi, Étienne, tu fais partie de ceux qui ont ce bénéfice de la bénédiction. Mais alors, comment je vais accueillir cela? Ce sera mon dernier point, peut-être le point le plus important pour nous. Repentez-vous, repentons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Parce que si Jésus est réellement celui qui accomplit cela, cette parole nous rejoint et doit nous toucher. Et elle doit forcément nous produire en nous un changement d'attitude. Et là, j'aimerais être le plus bref possible, mais le plus précis possible et le plus simple possible. Je crois que pour comprendre cela, il faut revenir à l'étymologie du mot « péché ». Qu'est-ce que ça veut dire « péché » ? Manquer sa cible. Il n'y a aucune connotation morale dans le mot « péché ». Péché, c'est manquer sa cible. C'est donc vivre sa vie dans la mauvaise direction et dans la mauvaise perspective. C'est ça, péché. Donc, c'est quoi se repentir ? Bien, ne plus pécher, c'est réorienter sa vie dans la bonne perspective, c'est réorienter sa vie dans la bonne direction pour poser les actes dans la bonne perspective et dans la bonne direction. Je peux être un homme moral et péché. Je peux être un homme juste et péché. Si je ne vis pas cela dans la bonne direction et dans la bonne perspective, qui est celle du royaume et de l'accomplissement des promesses. Je m'explique. Je suis entouré dans mon travail d'hommes et de femmes qui, au niveau moral, je dirais, veulent être aussi sérieux que moi d'un point de vue moral. Mais ils sont convaincus que c'est par leur propre force en tant qu'humanistes qu'ils le feront. Qu'ils laisseront ainsi dans l'histoire une trace qui pourra servir de modèle pour eux et pour leurs enfants, mais qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et ils ne voleront pas, ils ne tueront pas, ils ne donneront pas de faux témoignages. Et sans aucune référence explicite à Dieu, sans orienter leur vie dans la seule perspective que Dieu nous donne, c'est de croire en celui qui est mort pour nous, et non pas croire en nos propres forces pour réaliser le bien. Ça, c'est le péché ultime de l'humanisme, dans lequel nous baignons. Et c'est un péché, et pourtant on pose des actes moraux. À qui Jésus s'adressait ? À un peuple qui pratiquait la loi. À un peuple qui était conforme à ce que Dieu attendait s'il obéissait à la loi qu'il l'avait. Et nous, on sait que très bien dans le peuple, il y avait des hommes justes et droits. Pensez à Nicodème, pensez à Siméon, pensez à Anne, pensez à Marie, pensez à Joseph. Pourtant, eux tous avaient besoin de réorienter leur vie pour ne plus pécher. Pécher, c'est réorienter sa vie dans la perspective du plan de Dieu. Et du coup, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? C'est magnifique. Ce n'est pas par mes propres efforts que j'y arriverai. Je suis libéré de mes propres efforts. Je suis libéré de ma propre justice. Je suis libéré d'une obéissance fardeau, scrupuleuse à la loi. De toute façon, je n'y arriverai pas. Mais si par la foi, je crois que Christ est mort pour m'en rendre capable, que Christ est mort pour me relever de toutes mes chutes jusqu'au dernier jour de ma vie, alors j'entrerai dans le royaume promis. Vous savez ce que disait un grand chrétien? Il disait, le pire, ce n'est pas de tomber. Le pire, c'est de ne pas se relever. Si tu ne relèves pas, c'est que tu n'as pas l'espérance que Jésus est mort pour toi et pour tes péchés quotidiens de chaque jour jusqu'à ta mort. C'est une bonne nouvelle! C'est une bonne nouvelle! Nous ne sommes pas là pour enseigner une religion morale. C'est terminé tout cela. C'est libérateur. La loi va être inscrite dans mon cœur par l'Esprit Saint. Elle va révéler que je suis incapable de la vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque jour, si je suis humble et repentant, je me tourne dans la bonne direction, celle de la croix, et je reçois du roi des rois la capacité à me relever pour vaincre jour après jour la puissance de la mort en moi. Non pas par mes propres efforts, mais parce qu'il a accompli. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est bon de savoir que ce n'est pas une religion qu'on prêche. C'est bon de savoir que ce n'est pas un code moral qu'on prêche. On prêche un Christ crucifié, libérateur, qui a tout pouvoir et qui revient bientôt pour régner. C'est ça la bonne perspective. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Frères et sœurs, vous voyez, c'est comme s'il nous fallait nous réorienter toujours vers la croix, chaque jour. Je crois que c'est Luther qui a dit une chose, je mets beaucoup de guillemets, parce que si on l'a dit comme ça, hors du contexte, ça paraît terrible. Il a dit « merveilleuse faute qui m'a valu un si grand sauveur ». Qu'est-ce qu'il avait dit Luther? Je suis justifié, non pas par mes œuvres, mais par la foi, parce que chacune de mes fautes est pardonnée par le sang de Jésus. J'ai mis des années à comprendre ça, et pour moi c'est libérateur. Si je pêche demain, l'attitude que Jésus attend de moi, c'est que je retourne à la croix, que je reçoive le pardon, que je me relève et que je revive. Jour après jour, je peux vous témoigner qu'il y a des situations de rupture d'alliance dans ma vie, dont Dieu m'a complètement délivré. Par grâce. Comme ça. Il y en a d'autres où Dieu m'a délivré jour après jour pendant quelques années. Et comme Paul, il y en a certaines, comme une écharpe dans la chair, qui dureront peut-être toute ma vie. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Je me tourne dans la bonne direction. Je regarde mon roi. Je veux lui être loyal. Et par la foi, je reçois la grâce du pardon. C'est le seul effort que Jésus attend de moi. Le reste, il me le donne, par grâce. Vivons de la bonne nouvelle. Témoignons-en. C'est cela dont le monde a besoin. C'est cela dont les musulmans ont besoin, qui sont écrasés par une loi. C'est cela dont nos frères juifs qui ne connaissent pas Jésus ont besoin, qui sont encore sous la loi, mais dans une espèce de carcasse, de carapace, où tout doit être fait par nous-mêmes. Et si la religion chrétienne a enseigné cela, elle s'est trompée de direction. Rien que par la croix, rien qu'au travers de la croix, nous avons libre accès auprès du Père. C'est la bonne nouvelle. Amen.